Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui va abandonner ce ton un peu lassant, il faut le reconnaître, pour vous rappeler ou vous apprendre que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale plus ou moins pertinente les petites images qui bougent depuis un sacré bout de temps déjà. Ce jour de 24 notes secondes, eh bien nous allons partir en Italie, mais oui, par la magie de la radio et plus précisément dans la bonne ville de Florence, puisque la caractéristique principale des films que nous allons musicalement évoquer, eh bien, c'est de se passer pour tout ou partie à Florence, tout simplement. Ma foi, il y a des villes bénies des dieux comme celle-là, et Florence en fait partie. Alors, elle est aussi bénie des touristes, ce qui est parfois un inconvénient, apparemment. Il y a fait longtemps que je n'y suis pas allé, mais il est de plus en plus difficile de trouver des moments où il n'y a pas un monde fou à Florence, mais c'est un peu logique quand on a le Ponte Vecchio, quand on a les offices avec toutes ces merveilles du Quattro et du Cinquecento, quand on a, bref, toute la ville de Florence et sa magie, toute son histoire riche, eh bien, ma foi, on ne peut attirer que des touristes du monde entier. Hélas, tant mieux, en tout cas pour les Florentins. Quoique, hélas aussi, sans doute. On va commencer avec un film tourné en 1986 par James Ivory. En français, ça s'appelle « Chambre avec vue ». En anglais, ça s'appelle « A Room with a View », c'est-à-dire la même chose. Pour une fois, ça marche. Et en fait, « Chambre avec vue » est adapté d'un roman d'un écrivain anglais qui s'appelle Edward Morgan Forster. Et le livre s'appelait « Avec vue sur l'Arno », puisque nul ne l'ignore, en tout cas, je l'espère. Eh bien, c'est l'Arno qui coule à Florence et que traverse le fameux Ponte Vecchio déjà évoqué. Alors, le film, lui, raconte l'histoire d'une bonne famille anglaise, quelque part dans l'Angleterre du début du siècle, qui part en Toscane, où elle découvre donc les merveilles de la vie italienne, avec des mœurs, on peut le dire, moins corsetées que celles qui ont cours en Angleterre. Et le film, comme beaucoup d'autres, ce n'est ni le premier ni le dernier film à décrire l'émerveillement anglo-saxon devant les paysages, l'histoire et les mœurs d'un pays aussi libre, en tout cas pour des anglo-saxons, que l'Italie. Mais ma foi, James Ivory le fait avec beaucoup de panache. Il est aidé par Ruth, c'est un peu, son nom est toujours un peu difficile, en tout cas pour moi, Ruth Prower-Jabwala, qui est sa scénariste dans mon souvenir attitré. Il faut dire que James Ivory a eu deux amours, si je puis dire, dans sa vie. C'est l'Inde, à laquelle il a consacré quatre films, Le Propriétaire, Shakespeare Wala, Chaleur et Poussière, ça fait que trois films, excusez-moi, et ensuite eh bien, des films adaptés de romans de Edward Morgan Forster. Il y a eu Chambre avec vue, il y a eu aussi Maurice et quelques autres. Dans Chambre avec vue, la distribution est des plus prestigieuses et ça fait assez drôle, il faut le reconnaître, de voir tout jeune des acteurs et des actrices depuis devenus très célèbres, comme Helena Bonham Carter, qui rappellera sans doute quelque chose aux fans d'Harry Potter, c'est une des méchantes d'Harry Potter, Daniel Day-Lewis, qui n'était pas le grand acteur qu'il est devenu ensuite dans les années 90-2000, avec à leur côté la délicieuse Maggie Smith, qui n'est pas besoin de présenter, Denholm Elliott et quelques autres. Ma foi, le film est très classique dans la forme, très léché aussi dans sa présentation. Les paysages de la Toscane et un peu de Florence, mais bon, c'est pas toujours facile de tourner dans des villes modernes. Un film qui se passe au début du XXe siècle sont là aussi très réussis. L'ensemble est très classique, mais très beau. Et pour couronner le tout, eh bien, on a une musique de Richard Robbins, dont nous écoutons un extrait, Chambre avec vue, 24 notes secondes. Thank you. un extrait court de la bande originale de Chambre avec vue, Richard Robbins, James Ivory, musicien, réalisateur dans l'ordre, pour ce film qui se passe à Florence, où se passe, si on peut dire, notre émission de ce jour. Alors on va changer complètement de genre, puisqu'on va écouter un extrait de la bande originale d'Hannibal, un film de Ridley Scott tourné en 2001. Alors Hannibal, ce n'est rien de moins que la suite du Silence des agneaux, un roman d'abord de Thomas Harris, sorti en 1988 et adapté en 1991 au cinéma par Jonathan Demme. Un film qui, pour un film d'horreur presque, en tout cas très très violent et très très sanglant, a remporté quand même 5 Oscars, ce qui est quand même assez étonnant, et dans lequel on retrouvait dans le rôle du diabolique Hannibal Lecter, une sorte de docteur vaguement cannibale, entre autres méfaits, Anthony Hopkins, qui, sauf erreur, faisait partie des Oscarisés de cette année-là, Anthony Hopkins avec à ses côtés Jodie Foster, et 10 ans plus tard, eh bien, on retrouve Anthony Hopkins dans le rôle d'Hannibal Lecter. Par contre, Jodie Foster a décliné l'invitation, et c'est Julianne Moore qui la remplace, toujours dans le rôle de Clarice Starling, une des rares survivantes du premier opus. Il faut dire, pour expliquer l'écart entre ces deux films, une dizaine d'années, que Thomas Harris lui-même a mis plusieurs années avant d'écrire la suite de son roman. Évidemment, tout le monde la voulait, puisque le roman avait été un succès considérable avant même la sortie du film. Et donc, Hannibal n'est publié qu'en 1999, et le film est adapté dans la foulée. Alors, pas par Jonathan Demme, comme celui-ci en avait exprimé le désir, mais par Ridley Scott, encore un vieux routier du cinéma anglais-américain. Alors, pourquoi Florence ? Eh bien, tout simplement, puisque après avoir échappé dans des conditions que je vous laisserai découvrir soit dans les livres, soit dans les films, soit pas, avoir échappé donc à la police, eh bien Hannibal Lecter se retrouve à Florence, en Italie, et il est désormais conservateur de la bibliothèque du Palazzo Caponi. Alors ne me demandez pas comment il a fait pour arriver jusque-là avec, je dirais, tous les crimes et infamies qu'il avait pu commettre. C'est la magie, entre guillemets, du cinéma de pouvoir le faire. Bon, soyons clairs, autant Le Silence des agneaux était vraiment un film d'auteur avec un couple, entre guillemets, charismatique, Anthony Hopkins et Jodie Foster, autant Hannibal, eh bien, c'est vraiment une exploitation commerciale d'un succès précédent, même si évidemment Anthony Hopkins ne départ pas. La musique de ce film, et je vous jure que c'est vrai, je prends mon élan, elle est signée de Klaus Badelt, Geoff Zanelli, James Michael Dooley, Steve Jablonski, Gavin Greenway, Patrick Cassidy, Martin Tillman, Clay Duncan, Bart Hendrickson, Mel Wesson, Rupert Gregson-Williams et Hans Zimmer. Ne me demandez pas ce qu'a fait Hans Zimmer dans la chose, à part peut-être diriger ses petits copains, mais en tout cas, évidemment, c'est lui qui est crédité de la musique. Allez, on en écoute un extrait. Hannibal, 14 secondes. Un extrait de la bande originale signée donc d'Hans Zimmer et de quelques autres. Hannibal, Ridley Scott 2001 pour un film qui se passe à Florence. On va rester à Florence, mais on va quitter et Hans Zimmer et aussi le cinéma américain pour un extrait d'un film italien, cette fois de Mauro Bolognini, sorti en 1970, c'est-à-dire bien des années avant. Le film, il est adapté d'un roman, d'un romancier bizarrement peu connu de ce côté-ci des Alpes, comme l'on dit, Vasco Pratolini, mais beaucoup plus connu en Italie, où plusieurs de ses œuvres ont été adaptées au cinéma. Le film, il s'appelle Metello, il se passe à Florence, sinon il n'aurait rien à faire là, à la fin du 19e siècle. Metello, c'est un bel ouvrier maçon d'origine paysanne qui tente d'échapper à sa misère tout en faisant son éducation sentimentale. Alors le rôle principal est interprété par un acteur, là encore peu connu de ce côté-ci des Alpes, Massimo Ranieri. À ses côtés, il y a Ottavia Piccolo et Tina Aumont, qui elles non plus n'ont pas fait une carrière vraiment bouleversante, et Lucia Bosé, qui en 1970 eh bien, n'était plus vraiment une débutante, soit dit sans méchanceté, mais qui avait débuté dans les années 50, notamment chez Antonioni, je vais y arriver, Michelangelo Antonioni. La musique du film, eh bien, elle est signée de Ennio Morricone. Comment pourrait-il ou presque en être autrement? On se demande comment faisait ce diable d'homme. Et on en écoute un extrait, Metello, dans 24 notes secondes. Le Morricone puissamment lyrique et mélodique des années 70 pour un extrait de la bande originale de Metello, un film dont je ne suis pas sûr de vous avoir indiqué qu'il était réalisé par Mauro Bolognini, qui en signait le scénario d'après le roman de Vasco Pratolini, avec à ses côtés notamment Suso Sequidamico, qui fut une des collaboratrices les plus précieuses de Luchino Visconti. On est donc en Italie, ce qui est un peu normal s'agissant d'évoquer la présence de la ville de Florence au cinéma, et on va y rester avec un film de Dario Argento, tourné cette fois en 1996, ça s'appelle Le syndrome de Stendhal. Alors je ne sais pas si la notion de syndrome de Stendhal vous parle, mais en tout cas, elle a été justement inspirée par Stendhal, le romancier français, vous voyez vaguement qui c'est, je pense, Chartreuse de Parme, Le Rouge et le Noir, ce genre de choses. Non, bon, on va passer à autre chose tout de suite. Donc le syndrome de Stendhal, en fait, c'est une sorte d'émotion puissante et traumatisante qui saisit les gens qui voient des choses trop belles, c'est-à-dire par exemple une profusion d'œuvres d'art qui du coup vous font perdre toute notion de la réalité tellement c'est beau. Alors moi ça ne m'est hélas jamais arrivé, et il faut dire que j'écoute trop de musique de Hans Zimmer, c'est sans doute pour ça, mais par contre c'était arrivé à Dario Argento sur les marches du Parthénon pour ce qui le concerne. Il était, d'après ce qu'il disait, resté des heures errant autour du Parthénon parce qu'il avait trouvé ça trop beau. Bon, Parthénon, j'ai trouvé qu'il y avait surtout trop de monde, mais ma foi, chacun son truc, et donc le film se base de façon un peu ténue sur cet argument pour en faire le sujet. Et l'actrice principale, c'est Asia Argento, qui n'est autre que la fille de Dario Argento, qui connaît donc ce syndrome dans la galerie des Offices de Florence. Ce qui est assez amusant, c'est que par contre, elle le voit en contemplant deux tableaux fort connus, La Ronde de Nuit de Rembrandt, mais qui est là, se trouve à Amsterdam, et La Chute d'Icare de Piet Bruegel, qui quant à lui se trouve à Bruxelles. Ben, c'est les charmes du cinéma. Pourquoi est-ce que Dario Argento n'est pas allé chercher des tableaux présents aux Offices, comme La Naissance de Vénus de Botticelli et tant d'autres merveilles, surtout que lui, Ferrare, a eu le droit de tourner dans la galerie des Offices à Florence, qui doit être un exploit considérant la pression touristique de ce musée. Le reste, eh ben, c'est une sorte de slasher, de guia comme Dario Argento en a tourné beaucoup dans les années 70. Après, la veine s'est un peu tarie et en 1996, elle est un peu passée. Mais ma foi, le film se laisse voir, notamment grâce à la présence magnétique d'Asia Argento. Et puis là encore, on retrouve Ennio Morricone, qui a été un des collaborateurs de Dario Argento, avant de se fâcher avec lui, puis de se réconcilier. Mais c'est le cinéma. Allez, on écoute un extrait, Le syndrome de Stendhal, dans 24 notes secondes. un Morricone nettement moins mélodique que le précédent pour un extrait de la bande originale du Syndrome de Stendhal, un film de Dario Argento sorti en 1996. Et on va quitter la ville de Florence à regret en retournant 20 ans en arrière pour écouter un extrait de la bande originale signée, excusez du peu, Bernard Herrmann, d'un film de Brian De Palma avec un scénario co-signé par Paul Schrader et Brian De Palma. Le film, il s'appelle Obsession. C'est une histoire assez complexe qui se partage entre la Nouvelle-Orléans et Florence. Florence où le héros incarné par Cliff Robertson rencontre sa femme au pied de l'église de San Miniato al Monte. Vous l'avez forcément vu quelque part, c'est en remontant, c'est vraiment sur les hauteurs de Florence, mais c'est à Florence quand même. Ensuite il se passe des choses tragiques, il finit par revenir dans cette ville et retrouver une femme qui ressemble beaucoup à la sienne, interprétée dans les deux cas par la délicieuse Geneviève Bujold. L'histoire aura évidemment un dénouement hitchcockien, mais ce n'est pas un hasard puisque Brian De Palma et Paul Schrader, connus aussi comme réalisateurs notamment d'American Gigolo et aussi comme scénariste de Taxi Driver et tant d'autres, eh bien Paul Schrader et Brian De Palma ont été influencés par le Sueur froide alias Vertigo d'Alfred Hitchcock. Et le film, je vais évidemment me garder d'en divulgâcher la fin, le film aura beaucoup à voir avec ça. Donc on voit beaucoup l'église San Miniato al Monte, d'autant plus que, une curieuse idée, Cliff Robertson a repris une partie de sa façade pour en faire le monument funéraire à sa femme défunte. Bref, nous sommes à Florence tout en n'y étant pas, mais ça aussi c'est la magie du cinéma. Et on va donc, pour se quitter, écouter un bel extrait de cette bande originale pour laquelle Bernard Herrmann a vraiment donné le meilleur de lui-même, Obsession, dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.